Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare 3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1967, Les étapes de la pensée sociologique est un essai de Raymond Aron consacré aux grands auteurs qui ont contribué à constituer la sociologie moderne. Il examine successivement Montesquieu, Auguste Comte, Karl Marx, Alexis de Tocqueville, Émile Durkheim, Vilfredo Pareto et Max Weber. Le projet ne consiste pas seulement à résumer des doctrines. Aron reconstruit les problèmes auxquels ces penseurs répondent, leurs méthodes. Leurs concepts et leurs divergences sur les sociétés modernes, les classes, les institutions, la religion, la démocratie ou le changement historique. Le livre provient d'un enseignement universitaire, ce qui explique sa progression pédagogique sans réduire sa portée critique. Aron met particulièrement en valeur la difficulté de produire une connaissance rigoureuse de réalité humaine façonnée par les valeurs, les conflits et les choix collectifs. Cette histoire raisonnée de la discipline expose ainsi plusieurs manières de comprendre le rapport entre faits sociaux, actions des individus et évolution des régimes politiques. L'ouvrage demeure une porte d'entrée majeure dans la tradition sociologique classique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une histoire de la sociologie organisée autour de problèmes durables, Aron présente les auteurs dans un ordre qui est à la fois historique et intellectuel. Montesquieu ouvre la réflexion par la comparaison des lois et des régimes, tandis que Comte formule une ambition de science positive de la société. Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto et Weber permettent ensuite de préciser les grands objets de la sociologie moderne. Cette composition évite de traiter les classiques comme une simple galerie de portraits. Chaque étude éclaire une question qui demeure active: comment expliquer la diversité des institutions? Quel rôle attribuer aux structures économiques? Pourquoi les démocraties transforment-elles les rapports sociaux? Comment se forme la cohésion collective ou comment les croyances orientent-elles les conduites? Aron restitue donc des systèmes de pensée, mais il les fait aussi dialoguer. Marx et Tocqueville offrent, par exemple, deux voies distinctes. Pour analyser les sociétés issues de la modernité, le premier insiste sur les contradictions de classe et la dynamique de production, le second sur le mouvement vers l'égalité des conditions et ses effets politiques. Cette méthode aide le lecteur à distinguer les désaccords réels entre auteurs plutôt qu'à les fondre dans une définition unique de la sociologie. Elle montre surtout que la discipline est née de débats sur l'histoire, le pouvoir et la rationalisation des sociétés occidentales. Deuxièmement, Montesquieu. Comte et la recherche de régularité dans la vie collective, la première partie met en lumière deux manières fondatrices de chercher une intelligibilité du monde social. Chez Montesquieu, Aron souligne la démarche comparative, les lois et les institutions ne peuvent être comprises isolément, car elles entretiennent des rapports avec les formes de gouvernement, les mœurs et les conditions générales de la vie collective. Il ne suffit donc pas de juger une institution selon un idéal abstrait. Il faut examiner la place qu'elle occupe dans un ensemble social et politique. Comte radicalise ensuite le désir de scientificité en proposant une philosophie positive et une classification des sciences culminant dans la sociologie. Sa pensée associe connaissance du développement historique et aspiration à un ordre social stabilisé. Aron ne réduit pas Comte à cette ambition systématique. Il fait apparaître la tension entre une sociologie qui veut observer des régularités et une doctrine qui entend orienter moralement la société. Cette tension est décisive pour comprendre les limites de tout projet de science sociale. Décrire le réel ne donne pas automatiquement le droit de prescrire son organisation. La confrontation entre Montesquieu et Comte permet ainsi de situer deux héritages essentiels: celui de la comparaison des sociétés et celui de la recherche de lois de développement. Elle prépare les débats ultérieurs sur les rapports entre explication, histoire et jugement politique. Troisièmement, Marx et Tocqueville face aux transformations de la société industrielle. Aron accorde une place centrale à Marx et Tocqueville parce que leurs analyses affrontent directement les mutations sociales et politiques du dit 9e siècle. Marx interprète le devenir historique à partir des rapports de production, des antagonismes de classe et de la dynamique du capitalisme. Son apport ne se limite pas à une annonce révolutionnaire, il fournit des instruments pour penser le lien entre économie, pouvoir social et conflit. Aron reconnaît la puissance de ce questionnement tout en séparant les analyses de Marx des certitudes ultérieures du marxisme doctrinal. Il refuse notamment de considérer que le développement historique conduise nécessairement vers une issue politiquement déterminée. Tocqueville propose un autre diagnostic. Son objet majeur est la progression de l'égalité des conditions, comprise comme un fait social de longue durée qui modifie les mœurs, les institutions et les aspirations individuelles. Son analyse de la démocratie ne se confond pas avec une célébration automatique, elle examine aussi les risques de conformisme, de centralisation et de perte de l'indépendance civique. La mise en regard des deux auteurs révèle deux grammaires de la modernité. L'une privilégie le conflit économique et la structure des classes, l'autre les effets sociaux et politiques de l'égalisation. Aron invite ainsi à ne pas opposer mécaniquement économie et politique, mais à analyser leurs interactions sans sacrifier la pluralité des causes. Quatrièmement, Durkheim et Pareto, faits sociaux, intégration et circulation des élites. Les chapitres consacrés à Durkheim et Pareto déplacent l'attention vers les conditions de stabilité et de désordre dans les sociétés modernes. Durkheim définit le fait social par son caractère extérieur et contraignant à l'égard des individus. Cette orientation fonde une exigence méthodologique, les phénomènes collectifs doivent être étudiés avec des règles d'observation et d'explication propres, au lieu d'être ramenés aux seules intentions psychologiques. Aron expose notamment la place de la division du travail, de la solidarité et de la religion dans cette tentative de comprendre les formes de cohésion. La question est concrète, comment une société différenciée peut-elle maintenir des obligations communes sans reposer sur une similitude totale entre ses membres ? Pareto suit une voie différente, moins centrée sur le consensus moral. Il distingue les actions logiques des conduites, où les justifications rationnelles masquent souvent des mobiles plus profonds. Son analyse des résidus, des dérivations et de la circulation des élites conduit à observer la persistance des hiérarchies et les mécanismes de renouvellement des groupes dirigeants. Aron ne les confond pas. Durkheim cherche les bases d'une science des institutions et de la solidarité. Pareto développe une sociologie plus sceptique des idéologies et du pouvoir. Leur rapprochement montre que la sociologie classique étudie autant les liens qui unissent une collectivité que les forces, croyances et minorités qui structurent sa domination. En dernier lieu, Max Weber et la sociologie compréhensive des actions et des valeurs, Weber occupe une position décisive dans le livre, car son œuvre fournit à Aron un cadre particulièrement exigeant pour penser les sciences sociales. Comprendre une action ne signifie pas excuser les acteurs, ni renoncer à l'explication causale. Il faut reconstruire le sens que les individus donnent à leur conduite, puis analyser les conditions et les conséquences de ces conduites dans un contexte historique déterminé. Cette sociologie compréhensive refuse donc deux simplifications, réduire les comportements à des causes matérielles uniques, ou imaginer que les phénomènes historiques obéissent à des lois universelles semblables à celles des sciences de la nature. Aron insiste aussi sur les types idéaux, instruments de comparaison qui permettent de sélectionner et ordonner des traits significatifs du réel sans les prendre pour des copies parfaites de ce réel. Les analyses weberiennes de la rationalisation de la bureaucratie, de la domination et des relations entre éthique religieuse et activité économique donnent ainsi des outils pour examiner la modernité. Weber permet également de clarifier le problème des valeurs. Le chercheur choisit ses objets parce qu'ils importent dans une culture, mais il doit distinguer ce travail de connaissance de ses préférences personnelles. Aron trouve dans cette discipline intellectuelle une alternative à la fois au dogmatisme idéologique et à une neutralité illusoire qui nierait les conditions historiques de toutes. Enquête. En conclusion, les étapes de la pensée sociologique conviennent en premier lieu aux étudiants qui souhaitent acquérir des repères solides sur les classiques de la discipline. Il est aussi utile aux lecteurs de philosophie politique, histoire des idées ou sciences politiques. Car Aron montre que les concepts sociologiques naissent de questions concrètes sur les régimes, les inégalités, les croyances et le pouvoir. La densité de certaines analyses suppose une lecture attentive, mais la construction par auteur rend possible une consultation progressive. Le bénéfice intellectuel principal est de fournir une carte des désaccords fondamentaux explications par les structures ou par les actions, ordre social ou conflit, progrès historique ou pluralité des trajectoires, objectivité scientifique ou présence inévitable des valeurs dans le choix des objets. Le livre se distingue des introductions plus scolaires par son ambition interprétative. Aron ne transforme pas les penseurs étudiés en précurseurs d'une sociologie contemporaine uniforme et ne cherche pas davantage à les sanctifier. Il expose leurs forces, leurs tensions et les usages idéologiques qui peuvent déformer leurs œuvres. Sa lecture de Marx, attentive mais non marxiste, et sa place accordée à Tocqueville et Weber donnent à l'ensemble une orientation singulière. Cet ouvrage reste donc moins un manuel de définition qu'une enquête critique sur les conditions de possibilité des sciences sociales. Il apprend à comparer des théories, à identifier leurs présupposés et à relier les idées aux problèmes durables des sociétés modernes. Si vous souhaitez soutenir Raymond Aron, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.